Au dernier cours, pour le point de vue du jugement affirmatif et négatif, si vous vous souvenez bien. Et nous essayons de chercher le point de vue de la structure du jugement. Alors, je vous disais ce qui me semble important à souligner, comment, pour les anciens, l'affirmation est antérieure à la négation. C'est peut-être, vous voyez, un partage des eaux qui, je crois, est peut-être le plus radical au plan critique. C'est toujours intéressant de saisir des axes. Comment se fait-il que, de fait, dans toute la pensée ancienne, alors là, la pensée ancienne, ça remonte assez loin, jusqu'à la pensée contemporaine et moderne, qui affirme le primat de la négation. Comment s'est fait ce virement? Comment s'est fait cette transformation? Je crois que c'est une grande question critique, ça. C'est pour moi peut-être une des questions les plus fondamentales au point de vue critique, pour comprendre ce que c'est que la modernité comparativement à ce que représente la connaissance ancienne et classique, traditionnelle. C'est les deux. Il y a un revirement qui s'est fait. Et je crois qu'à partir de là, on comprend tout le reste. C'est pour ça que c'est peut-être, je dis peut-être, parce que je ne peux pas l'affirmer d'une façon absolue, c'est une des choses sur lesquelles je crois qu'il faudrait réfléchir. Mais je crois que c'est vraiment là l'axe de la plus grande transformation entre ce qui est ancien et ce qui est actuel. Bon. On voit bien, pour Aristote, je prends exprès, parce que c'est deux exemples très nets, pour Aristote, l'affirmation est première par rapport à la négation. Ça n'offre aucune difficulté pour Aristote. Mais Aristote l'affirme comme du bon sens, quoi. Si vous réfléchissez un tout petit peu, l'affirmation est première, la négation est seconde. Pour les modernes, non. Je prends Sartre. Parce que je crois que c'est Sartre qui est encore un de ceux qui a le plus réfléchi sur la négation. Et c'est ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est dans sa philosophie, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est les pages sur la négation. C'est pas juste, hein, c'est pas exact, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre quand même comment l'intelligence, dans son jugement, n'est parfaitement elle-même que dans la négation. Alors, sans aller jusqu'à Heidegger, puisque vous savez bien que quand on a dit à Heidegger, c'est Valens, quand Valens a expliqué comment le néant était avant l'être, en disant donc chez vous, c'est tout simplement la négation qui est avant l'affirmation. Heidegger a dit à Valens qu'il ne le comprenait pas. J'en suis pas absolument sûr. N'est-ce pas? Parce que Valens, en disant ça, comment le non-être, le rien est avant l'être, Valens soulevait qu'au fond, chez Heidegger, la négation devait être antérieure à l'affirmation. Ce que je croirais assez volontiers. Mais Heidegger, évidemment, ne fait pas de cette manière-là, mais il y a quelque chose de cela qui est impliqué dedans. Je crois qu'autrement, on ne pourrait pas mettre le néant. Je crois que chez Heidegger, il y a une laïcisation de la théologie qui est antérieure pour lui, qui est plus fondamentale. C'est que, de fait, c'est le ex nihilo de la création qui fait que le rien, c'est sur le rien qu'apparaît l'être. Vous voyez ? Sur l'abîme apparaît l'être. On comprend très bien. C'est toujours sur l'abîme, donc sur le rien, sur le néant, que l'être apparaît. Alors, dans une certaine vision théologique, vous savez bien ce que disait le vieil Aristote, pour les théologiens, le non-être est avant l'être. Pour les théologiens, le non-être est avant l'être. Il dit ça à cause d'Hésiode. Parce qu'il y a d'abord l'abîme, puis après il y a la terre. Alors, il disait ça, et c'est intéressant de voir ça. Vous voyez, Hésiode, Heidegger. De voir ces deux aspects-là. Et je crois que dans la pensée moderne, au plan philosophique, le point de vue de la négation est antérieur. Alors, voyez, ça a d'immenses conséquences. Ça, je crois qu'on touche à un point névralgique de la compréhension de l'intelligence. C'est même peut-être plus important, voyez, d'une certaine manière, c'est autre chose que le point de vue de la subjectivité transcendantale. Les deux se tiennent. Hein. Les deux se tiennent. Mais d'une certaine manière, la conséquence immédiate de la subjectivité transcendantale, c'est peut-être d'affirmer la négation en premier lieu. Alors, il faudrait là aussi, au point de vue critique, hein, je souligne certains problèmes que nous n'avons pas le temps de voir, mais qui seraient intéressants à voir. Qui seraient des problèmes intéressants, parce que c'est des problèmes très actuels dans lesquels nous devons entrer. Quel est le lien entre la subjectivité transcendantale et le primat de la négation? Je crois que le primat de la négation est une conséquence. Il faudrait voir, au moins manifeste, ce point de vue-là. Alors, essayons de réfléchir quelques instants là-dessus, parce que c'est intéressant. Aristote n'a pas besoin, lui, de légitimer le primat de l'affirmation, tandis que nous devons le légitimer en critique. Nous devons dire, pour nous, en philosophie réaliste, nous affirmons le primat de l'affirmation sur la négation. Et nous devons le justifier, hein, c'est pas seulement, autrement c'est un a priori, nous devons le justifier. Pour pouvoir le justifier, il s'agit de comprendre comment on est arrivé à ce primat de la négation sur l'affirmation. Il me semble qu'on est arrivé à ce primat de la négation sur l'affirmation parce qu'on a mis le possible avant l'acte. Il me semble que c'est ça le métaxu, au point de vue critique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous l'écrirez et vous me poserez vos objections. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est un sujet que je crois très important. Alors, je le cherche avec vous. Parce que c'est des sujets qu'on doit creuser, qui n'ont pas été beaucoup creusés au point de vue critique. Surtout dans une perspective de critique de philosophie réaliste. C'est là où on voit que la pauvre critique est restée très en arrière. On voit très bien dans tous les domaines, critique de la philosophie par rapport aux sciences, critique par rapport à la phénoménologie, critique par rapport à tout ce que représentent les problèmes très très importants. Alors, je crois que c'est parce que le possible a été posé avant le point de vue de l'acte. Alors, prenez la philosophie de Leibniz. Leibniz, vous le savez, ce qu'on a dit de Leibniz. Leibniz, c'est le dernier des scolastiques. C'est-à-dire, c'est le dernier qui fait une grande synthèse philosophique, et assez étonnante, mais je crois, en introduisant des quantités de choses qui vont s'épanouir ensuite, qui vont éclater ensuite, et qui sont, chez Leibniz, à l'état de, uniquement de semences. Vous voyez, c'est la philosophie de Leibniz, d'une certaine manière, contient toute la philosophie de Husserl. Ça a été soutenu ici en thèse, n'est-ce pas? Et je crois que c'est vrai, que c'est très vrai, que d'une certaine manière, tout Husserl est contenu en germe dans Leibniz. C'est intéressant, parce que ça nous fait un raccrochage par rapport à la philosophie classique et à la philosophie moderne, vous voyez? C'est que d'une certaine manière, il y a ça. L'erreur fondamentale de Husserl, c'est le primat du possible sur l'être, sur l'acte. Là, on se retrouve, et puis ça on montre combien c'est intéressant de comprendre la philosophie de l'acte de la puissance. Parce que si on ne comprend pas la métaphysique de l'acte de la puissance, on ne comprend pas ces problèmes-là. Mais si on comprend la métaphysique de l'acte de la puissance, on voit tout de suite que ce qui est possible dépend de l'acte. Pour Leibniz, c'est l'inverse. Le possible est antérieur. Alors, le possible est antérieur à l'acte. Vous voyez très bien ce que ça peut signifier, cette chose-là. Le possible, au plan métaphysique, regarde l'essai et le non-essai. C'est évident qu'il regarde les deux. C'est le propre du possible. Je ne prends pas le possible logique, hein, mais le possible métaphysique. Même si chez Leibniz il y a une confusion entre les deux, je regarde le possible métaphysique. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Vous comprenez bien, c'est toujours la métaphysique qui commande la logique. Donc, regardons la métaphysique et puis après, on comprend les conséquences au point de vue logique. Tandis que si vous regardez la logique, ce sera assez court. Et assez vite court, vous ne verrez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le rapport entre le possible et l'essai et le non-essai. Pour que le possible passe à l'acte, il faut l'intervention de l'autre. Ça me semble très net. Le possible n'est actué que par l'intervention, ne devient essai que par l'intervention d'un autre. Tandis que le possible possède en lui-même le non-essai.
il y a une espèce d'immanence. Tandis que là, il y a une transcendance. L'autre.
Très important de voir ça. Parce que le possible contient par lui-même le non-être. Le possible ne contient pas par lui-même l'essai. Il est capable de recevoir l'essai, mais il ne le contient pas par lui-même. Il faut l'influence d'un autre transcendant pour que le possible devienne essai. Par le fait même, vous voyez que dans toute philosophie qui reste un peu dans l'immanence, le possible contenant le non-être, est premier par rapport à l'essai, au niveau du possible. C'est très net. Au niveau du possible, puisque le non-essai est immanent au possible, alors que l'essai implique le point de vue de l'influence de l'autre, on peut donc dire que du côté du possible, le non-être est premier. Et le tour est joué. Métaphysiquement, le non-essai est donc antérieur avant l'essai. Donc, la négation va être antérieure à l'affirmation. Très curieux, ça. Et ça, ça me semble capital à comprendre, ça. Alors on comprend comment une philosophie qui affirme le possible avant l'acte va nécessairement arriver, conséquence, d'affirmer le primat de la négation sur l'affirmation. Il y a un lien, vous saisir, hein? Il y a un métaxu. Autrement dit, nous sommes, vous voyez, la première grande transformation, c'est d'abord de métaphysique, puis après, au point de vue critique. Puis après, au point de vue logique. Il y a toujours trois points de vue qui se tiennent. Métaphysique, critique, logique. C'est normal, hein? C'est tout à fait normal. Vous avez l'essai, le noën et le legain. Vous avez les trois. Alors je les traduis, métaphysique, donc la transformation métaphysique pour Aristote, l'acte est avant la puissance. Nous commençons à le savoir. Et nous le saurons de mieux en mieux, n'est-ce pas? Tandis que transformation métaphysique, mais oui, une transformation complète, le possible est avant l'acte, alors au plan de vue critique ensuite, ce sera le point de vue de la négation qui sera première. Parce que le non-être est contenu dans le possible, tandis que l'essai n'est pas contenu. Il faut réfléchir là-dessus. Bon, essayons de comprendre. Ceci, c'est pour essayer de voir comment on est passé du primat de l'affirmation au primat de la négation. Alors, il faut se poser aussi la question, quel est le premier parmi les philosophes contemporains qui ont affirmé le primat de la négation? C'est peut-être pas un contemporain, c'est peut-être un moderne. Je crois que c'est dans la philosophie hegélienne. Je crois. Je dis encore avec un point d'interrogation. Je crois que c'est dans la philosophie hegélienne où le primat de la négation est passé avant l'affirmation. Le passage de Leibniz à Hegel. Et alors, à partir de Hegel, l'éclatement de la philosophie, ça c'est très net, avec les éléments essentiels de l'hegélianisme qui est resté, la dialectique et le primat de la négation. Alors, c'est aussi la question qui se pourrait poser. Est-ce que dans toute dialectique, la négation n'était pas avant l'affirmation? Est-ce que pour conserver, vous voyez, tout se tient? Et c'est ça l'intérêt de la critique, c'est qu'on dévie ses écrous. On essaie de comprendre comment ça se tient, comment il y a une logique interne, il y a une dialectique de la faute. Alors comment vous commencez à dérailler, vous déraillez jusqu'au bout. Alors est-ce que, je me pose simplement, hein, je ne peux pas tout traiter, je pose simplement la question, est-ce que toute dialectique n'implique-t-elle pas un primat de la négation sur l'affirmation? Alors, je ferme la parenthèse, et j'essaie maintenant de revenir à mes petits poissons, n'est-ce pas, et à regarder pourquoi je dis primat de l'affirmation. Comment montrer à quelqu'un qui serait dans la pensée contemporaine et moderne sur le primat de l'affirmation, sur le primat de la négation, lui montrer qu'il a tort. Et donc, à vous-même, justifier le primat de l'affirmation pour que vous ne tombiez jamais dans l'hégélianisme et que vous ne tombiez jamais dans la dialectique. Et que vous restiez dans une perspective de philosophie réaliste. L'important, c'est le nœud. Là, vraiment, on touche le nœud. On touche le nœud et on essaie de comprendre. Vous voyez, ça vient, j'allais dire, justifier pourquoi le jugement d'existence ceci est premier. Parce que si la négation est première, le jugement d'existence ceci est second. C'est bien évident. Et si le jugement d'existence est second, ben, toute ma philosophie repose sur quelque chose de secondaire et donc elle ne peut pas être une philosophie. Ça, c'est net. Si je fonde la philosophie sur quelque chose de second, ma philosophie n'est pas exhaustive. Elle est a priori. Donc il faut pouvoir montrer que le jugement d'existence est premier, c'est-à-dire que l'affirmation est première. Dans les affirmations, c'est évident que c'est ceci qui est premier. C'est le plus simple. C'est la plus simple de toutes les affirmations. Tandis que si je dis que la négation est première, je dois dire ceci n'est pas qui est premier. Alors évidemment, vous voyez bien, et si ceci n'est pas et premier, ceci est second. Et par le fait même, une philosophie qui repose sur le jugement d'existence n'est plus exhaustive. Parce qu'il y a tout un domaine que je ne vois pas. Je crois que très facilement, un heideggerien dirait ça. En disant, mais non, c'est pas ça la première affirmation. La première affirmation, c'est toujours la fameuse chose que Leibniz disait, pourquoi ceci est et plutôt que n'est pas. Vous voyez ? Alors, c'est pas encore dit de façon absolue, mais c'est pour montrer que l'affirmation ne peut pas se faire sans la négation. Vous voyez ? Et ceci, c'est parce que le possible. Pourquoi Leibniz dit-il, le principe premier, c'est ceci, c'est l'affirmation pourquoi ceci est plutôt que n'est pas. C'est parce que pour Leibniz, c'est le possible qui est premier. Si le possible est premier, la première affirmation, c'est pourquoi ceci est plutôt que n'est pas. Puisque à première vue, ça semble contradictoire, parce que si le possible est premier, c'est le non-être qui est avant. Alors je comprends la stupéfaction. Pourquoi ceci est plutôt que n'est pas. Et vous voyez, tout ça repose sur le primat du possible. Donc c'est, et ça, on touche là quelque chose de très névralgique hein, dans la pensée heideggerienne. Parce qu'Heidegger reprend ce principe de Leibniz. Et il considère que c'est vraiment là le premier principe. Vous voyez ? Alors c'est de voir que de fait, négation et affirmation sont contenus l'un par rapport à l'autre. Je ne peux pas dire que l'affirmation est vraiment première, parce que chaque fois que j'affirme, je nie. Je ne sais pas pourquoi j'affirme, plutôt que de nier. Puisque au-delà de l'affirmation, il y a le possible. Oui, on touche là. Quelque chose d'intéressant, important à saisir. Alors, revenons. Pourquoi l'affirmation est-elle première par rapport à la négation? Première raison. Hein. J'essaie de donner successivement quelques raisons. Si vous en voyez d'autres, vous me le direz. Parce que ça m'intéresse. C'est intéressant d'y réfléchir. Je vous dis, c'est vraiment au cœur de toute la pensée moderne. Alors, première raison, qui m'est donnée par un signe, vous allez être très amusé, parce que le signe, c'est justement que dans le langage, c'est que ceci n'est pas présuppose ceci. Ce n'est qu'un signe, ce n'est pas une raison apodictique. C'est pour ça que les autres peuvent très bien dire, attention, la pensée est l'inverse du langage. Chaque fois que je pense, j'inverse. Parce que mon idée est avant mon langage. Je peux très bien dire ça, hein. Je pourrais le soutenir. Ça ne me gêne pas beaucoup. Le langage est de l'ordre du conditionnement. Ma pensée est au-delà du conditionnement. Donc, nécessairement, mon langage qui est de l'ordre du conditionnement est l'inverse de la pensée. Vous voyez, tout de suite.
C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un argument, c'est un signe.
C'est un signe. Normalement, quand même, il y a une certaine harmonie entre la pensée et le langage. Avant de dire l'inverse, il faudrait pouvoir justifier l'inverse. Et vous comprenez très bien qu'en justifiant l'inverse, j'ai des arguments sophistiques. Mais il faut les comprendre, il faut les connaître, parce qu'autrement, si vous ne les connaissez pas, quand on vous les lance sur les pieds, vous ne savez plus quoi faire, et votre tête perd son sens. Alors il faut comprendre, au point de vue, premièrement un signe, c'est que ceci est simple, comparativement à ceci n'est pas. Donc le n'est pas, le non, vient s'ajouter au ceci. La négation m'apparaît, selon le langage, comme une addition. C'est clair. Je marche. Non, tu ne marches pas. Oui. La négation vient toujours s'ajouter. Donc, au point de vue du langage, la négation semble toujours apparaître comme une addition. Ça va très loin, ça, du reste. Parce que ça montre bien ce que nous avions déjà dit, que le non-être est une invention d'intelligence. Pourquoi ? Parce que la négation est une invention d'intelligence. La négation n'est pas quelque chose de premier.
Alors là, on touche tout de suite déjà la seconde raison. D'essayer de comprendre ce que c'est que la négation. Quand vous dites rien, quand vous dites non-être,
la négation est un fruit de l'intelligence, quand je dis non-être, quand je dis rien. Vous n'avez aucune expérience du non-être, aucune expérience du rien. Mais vous inventez le non-être et le rien pour manifester l'être. Je renvoie ici au poème de Parménide. Évidemment, j'interprète de cette manière-là. C'est que le non-être est inventé par moi. La déesse ne communique pas le non-être. La déesse ne communique que l'affirmation « il est ». Elle communique directement quelque chose de positif. Alors, la négation apparaît donc toujours quelque chose de second. Dans une position réaliste, c'est net. Parce que mon dialogue premier, c'est l'intelligence avec la réalité. C'est mon premier dialogue. Je commence à être intelligent et à m'éveiller quand je m'aperçois qu'il y a quelque chose devant moi qui m'éveille. Et je suis éveillé par l'autre. Et je commence à m'éveiller dans la vie de l'intelligence grâce à l'autre qui est là présent. Donc, au point de vue d'une philosophie réaliste, c'est net que la négation est toujours quelque chose de second. Donc, le langage, deuxièmement, la réaction sur une philosophie, dans une philosophie réaliste, où je vois que l'intelligence est liée en premier lieu à ce qui est, et que la négation est le fruit de l'intelligence. Est-ce que nous pourrions une troisième raison ? Le signe, là, la structure de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence en tant qu'elle est ordonnée vers ce qui est. En tant qu'elle regarde en premier lieu la réalité. Oui. Et ceci, c'est évidemment, toute critique présuppose la métaphysique. Toute critique présuppose la métaphysique. Je ne légitime pas la métaphysique au nom de la critique. Mais je justifie ma position métaphysique dans une critique. Alors évidemment, là, je touche tout à fait les frontières. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je touche les frontières. Je touche les frontières pour expliquer. Quand je disais ce matin, vous voyez que l'intelligence est souveraine et que rien n'est au-dessus de l'intelligence quand elle saisit l'acte, je pourrais dire qu'ici, il y a quelque chose de semblable. C'est quand l'intelligence affirme, elle sait qu'elle est première. Et quand l'intelligence nie, elle sait qu'elle est seconde. À l'intérieur même de l'intelligence, la conscience que j'ai, de l'affirmation et de la négation. On va me dire que c'est subjectif. Non, ce n'est pas subjectif. C'est la conscience même de l'intelligence, quand elle affirme, elle sait qu'elle rejoint ce pourquoi elle est faite. Elle rejoint ce qui est. Et elle ne rejoint ce qui est que par l'affirmation. Et donc l'intelligence, prenant conscience de ce qu'elle est, comprend qu'elle est tout entière ordonnée à la res, ce qui est. Et donc elle est première en affirmant. Tandis qu'au contraire, quand elle nie, elle n'est pas première. J'allais dire, elle suspend son activité. Ceci n'est pas, c'est tout. Elle reste uniquement en suspens, mais elle ne respire pas encore. Je n'ai pas encore rencontré ce qui m'intéresse quand je dis ceci n'est pas. Je me replie, c'est tout. Mais je n'ai pas rencontré ce pourquoi j'étais. Donc n'ayant pas rencontré ce pourquoi elle est faite, elle suspend. Ce n'est pas une suspension de jugement, mais c'est une reconnaissance qu'elle ne contacte pas, qu'elle ne saisit pas ce pourquoi elle est faite. Et je crois que c'est la troisième raison. C'est à l'intérieur même de la conscience que j'ai de l'affirmation et de la négation. Mais je crois qu'il y a trois raisons. Si vous en trouvez d'autres, vous me le direz. Pourquoi l'affirmation est première par rapport à la négation. Première raison, le langage, mais ce n'est qu'un signe, toujours. Deuxième raison, le point de vue du non-être, qui est impliqué dans la négation, qui est le fruit de la négation. Et troisième raison, les deux se touchent évidemment, troisième raison, c'est que l'affirmation me met en contact avec ce pourquoi mon intelligence est faite. Le terme de mon intelligence. Ceci, vous voyez, c'est simplement à partir de l'expérience que j'ai de ce qu'est l'affirmation et la négation. Et je prends l'affirmation dans ce qu'elle a de plus simple, ceci est, ceci n'est pas. Je crois que nous pouvons affirmer cela pour montrer le primat de l'affirmation sur la négation. Ceci, c'est très important, puisque si l'affirmation est première par rapport à la négation, c'est dans l'affirmation que je vais découvrir ce que c'est que le jugement. La négation ne sera là que pour confirmer ou pour ajouter un élément supplémentaire qui sera manifesté dans la négation. Mais si au contraire, poussons jusqu'au bout, si au contraire la négation était antérieure à l'affirmation, c'est la négation qui ferait comprendre ce que c'est que le jugement. On verra tout à l'heure. Ce sera intéressant de comparer les deux. Vous voyez ? On peut très bien comparer les deux, mais il faut le faire si je veux aller jusqu'au bout de ce que représente ma critique, étant donné que je suis en présence de ceux qui affirment le primat de la négation. Il faut que je regarde, il faut être attentif à ce qui se dit. Et comme là, je crois qu'on est en face de quelque chose de très fondamental, il faut être attentif à l'alternative. Si je ne suis pas attentif à l'alternative, il y a quand même certaines choses que je ne comprendrai jamais. Donc il faut que j'essaie de comprendre ça. Bon, si l'affirmation donc est antérieure à la négation, c'est le jugement affirmatif, ceci est, qui est premier. Qui est le jugement par excellence. Tandis que l'autre sera dépendant de celui-là. Donc la négation ne pourra se comprendre qu'en fonction de l'affirmation. Elle sera relative à l'affirmation. Et elle se comprendra en dépendance, mais je dirais que dans la négation, je ne suis pas en présence d'une activité parfaite, je suis en présence d'une activité seconde, imparfaite, qui ne me décèle pas, qui ne me fait pas comprendre ce qui caractérise l'activité du jugement. L'activité du jugement étant une opération intellectuelle parfaite, à la différence de l'appréhension. Vous voyez, l'appréhension est au-delà de l'affirmation et de la négation. Mais il faut se demander si la négation est première, si au fond, à ce moment-là, est-ce que je peux encore dire que l'appréhension est une opération élémentaire première. Ça, c'est autre chose. Mais il faudra se le demander. Alors, j'essaie de comprendre comment dans l'affirmation, nous allons maintenant analyser l'affirmation, tout simplement. Ceci est. Parce qu'elle est première. Oui.
Dans le datum, est-ce que c'est la négation qui est la première ?
déjà dedans, mais c'est pas explicite. C'est pas explicite. Mais ce sera la première, ce sera le premier moment du déraillement, si vous voulez. Je l'ai pris tout de suite, tout à l'heure, dans le possible, parce que c'est là où on le voit le mieux. Et sûrement le premier, parce que c'est le premier abandon du jugement d'existence. Et la transformation du jugement d'existence. On va se demander à la suite. Vous voyez ? Quel est le lien qui existe entre le tatour pour transformation du jugement d'existence avec la primauté du jugement d'existence ? Je ne peux pas le dire d'affirmatif. Je ne crois pas que Occam ait affirmé que le jugement négatif est antérieur au jugement affirmatif. Je ne crois pas. Je ne peux pas le dire d'une façon absolue. Je n'ai pas lu tout Occam. Alors, je ne peux pas le dire. Mais tout ce que j'ai lu d'Occam, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez ? Et il me semble que s'il l'avait dit, ça aurait été répété. Les erreurs seraient tellement dites. Ça aurait été répété, on l'aurait su en grand. Mais bon, or, ça n'a pas été répété, donc il ne l'a pas dit. C'est un jugement. Oh. Je peux le dire, voilà, en gros, pas en gros, c'est ça. En attente de pousser plus loin, lisez tout Occam, c'est pour avoir du courage, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres qui ne sont inédites. Alors ça demande beaucoup de travail de lire Occam dans les manuscrits, c'est pas commode. Hein. Alors, il faut essayer de comprendre. Le jugement, ceci est. Dans l'affirmation, ceci est. C'est ça qui est premier et qui va me faire découvrir ce que c'est que le jugement. Vous comprenez bien que c'est ce que je cherche au point de vue critique. Qu'est-ce que c'est que cette opération particulière du jugement, qui est une opération parfaite? Qu'est-ce qui caractérise le jugement affirmatif? C'est l'adhésion. Ce n'est plus l'assimilation, c'est l'adhésion. Quand je dis ceci est, j'adhère. J'adhère intellectuellement, pas volontairement, mais j'adhère intellectuellement, c'est autre chose. Hein. L'adhésion volontaire, je t'aime. Et puis l'adhésion intellectuelle, ceci est. C'est toute la marge qui existe entre l'existence et l'amour. N'est-ce pas ? On voit bien la différence. Donc, adhésion, je crois que c'est ça qui caractérise le jugement d'existence. On adhère en disant ceci est. C'est-à-dire, j'accepte de dépendre de cette réalité qui existe, de cette réalité autre que moi qui existe, de cette exister. Je reconnais que je suis relatif à cette exister, puisque j'y adhère. Je donne mon consentement. Je consens à dire ceci est. Et à reconnaître qu'il y a l'autre. Donc, je me mets dans un état relatif à cet autre. Je reconnais que cet autre a une priorité, il est premier, par rapport à mon jugement d'existence. Je suis second. Donc, le premier mesure et le second est mesuré. Donc je peux le dire, tout ça, ça dépend de ce fait que j'adhère. Et je reconnais donc que l'autre, l'existé, il est premier, il me mesure. Et je suis relatif à lui. Et si donc je suis conscient que je suis mesuré adéquatement, parfaitement par ce qui me mesure, je peux dire, je suis dans la vérité. Et comment va naître le point de vue de la vérité ? C'est très important, ça. On verra si avec le primat de la négation, il y a encore une vérité. C'est important de comprendre ça. Ici, c'est très net. Puisque je reconnais que mon jugement est second, il est relatif à une mesure. Il est relatif à la réalité haute qui existe. Et que comme je suis relatif, je peux me demander si je suis conforme à cette réalité. Si ce que je dis correspond bien à cette réalité. Et si ce que je dis correspond bien à cette réalité, je peux affirmer ce que je vous dis est vrai, c'est conforme à la réalité. Je suis donc en présence de ce jugement capable, en adhérant, d'avoir cette auto-lucidité qu'elle dit vrai. Et donc, le problème de la vérité, dans l'auto-lucidité, dans la conscience, apparaît tout de suite. C'est curieux, tout de suite, tous ces problèmes se tiennent. Il y a une espèce de lien entre le problème du jugement lui-même, l'adhésion, et le problème de la découverte de la vérité. D'une vérité à l'intérieur même de ma connaissance. Ma connaissance est vraie. Allons un peu plus loin. Ça, c'est la première précision. Allons un peu plus loin pour essayer de comprendre que représente exactement cette adhésion. Parce que, quand je dis ceci est, je peux à facilement analyser le contenu de ma pensée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énonciation. J'énonce, ceci est. J'énonce, ceci est. Quand je ne fais qu'énoncer, est-ce que j'adhère ? Vous savez, quand on dit au point de vue liturgique « récit », on n'adhère pas nécessairement. Récit, toute la question de la commémoration. Est-ce que c'est un récit ou une adhésion ? C'est là, présent. Vous allez saisir ça. C'est intéressant de voir ça. À l'origine, au point de vue philosophique, en effet, il y a deux moments différents. Je peux très bien énoncer simplement, quand je regarde le contenu, comprenez bien, quand je regarde le contenu de mon affirmation, j'énonce. Et j'énonce le contenu de mon affirmation en disant ceci est. Je ne regarde que le contenu. Ce contenu, il est le fruit d'une opération vitale particulière qui est la seconde opération d'intelligence, du moins ce qu'on appelle le jugement. Je dois donc distinguer trois aspects différents. Vous voyez, tout de suite, je distingue. C'est là la complexité du jugement. Je distingue l'opération vitale, l'énonciation qui est le fruit de cette opération vitale, et l'adhésion. Et ceci, je dois le faire tout de suite. Je le fais tout de suite, dès que je réfléchis. J'ai commencé par l'adhésion, parce que c'était plus immédiat. Mais dès que j'analyse comment se fait cette adhésion, elle implique que j'énonce, forcément, le jugement énonce. Ce jugement qui énonce, c'est l'énonciation et le fruit d'une opération vitale, qui est le jugement. Le jugement est une opération vitale qui a un fruit, l'énonciation. Et cette énonciation, quand je regarde uniquement énoncer, ça ne veut pas dire adhérer. Je pourrais donc suspendre, c'est une chose très curieuse, je pourrais donc suspendre mon jugement en restant uniquement au niveau énonciation. J'énonce. Et je peux dire j'adhère. Vous savez, on fait cette distinction que là constamment quand on raconte des histoires. Je vous raconte une belle histoire. Alors, est-ce que vous y croyez ? Ah, c'est autre chose. Est-ce qu'une parabole, c'est une énonciation ? Ou est-ce que c'est une réalité ? On peut suspendre. Alors, qu'est-ce que ça correspond, ça ? C'est ça qui est intéressant à voir. Bon, on en a très, très fort conscience. On peut très, très bien avoir conscience que le jugement est une opération qui énonce. Mais que le jugement a quelque chose de plus, c'est qu'il peut rejoindre le réel. Et en rejoignant le réel, on y adhère. Le réel n'est jamais neutre, mais l'énonciation peut être neutre. C'est ça qui est admirable dans l'énonciation. Je peux énoncer, dire, j'y adhère ou je n'y adhère pas, c'est à voir, on verra, demain, la fois prochaine. Mais au fond, j'énonce. L'adhésion, ah, c'est autre chose. J'adhère au réel. Et quand je dis ceci est, j'adhère au réel. On verra ça la prochaine.